Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe sur les ondes de puissance maximale. Vous écoutez Parlons Trek. Et cette semaine, c'est la semaine qu'on attendait tous depuis très longtemps. Peut-être pas autant que cet automne, mais c'est un pas en la bonne direction parce que oui, en effet, on a eu le... Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites ici? Le fameux trailer pour Star Trek Discovery. Ben, trailer, c'est plus un teaser tant qu'à moi, là.
Mais de toute façon, si le monde qui ne l'a pas vu, allez le voir avant de nous écouter parce qu'on l'analyse.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est un vrai trailer, mais avant toute chose... Marc! Ben
oui. Salut!
Bonjour, Pierre!
Bonjour! Hey, en plus, je suis pas tout seul, moi, de mon côté.
Ah ben, c'est vrai!
Bonjour, mon nom c'est Patricia Gosselin, je suis la femme de Pierre et également Tricky.
Bon, félicitations, ouais, c'est bien. Et maman et papa Guy, c'est la famille oui. Ghostbusters de Lévis. Donc, bienvenue Pat. Je l'ai invité sur l'émission parce que j'ai peut-être une perspective féminine sur ce qu'on a vu hier. Et je pense que Patricia est très bien positionnée pour... émettre son avis là-dessus.
Ça va me faire plaisir de mettre un peu d'estrogène là-dessus.
J'avoue, notre émission manque un peu d'estrogène. C'est pas par manque de volonté. Donc, avant d'embarquer à pieds joints dans ce fameux trailer, je pense qu'il y a quelques petites choses qui ont retenu l'attention cette semaine, outre ce trailer. Premièrement, c'était la fin de semaine dernière, c'était le Free Comic Book Day. Et il y avait une BD de IDW qui sortit qui s'appelait Star Trek Mirror Broken, où on pouvait voir un capitaine Picard buff, très buffé, très musclé, avec un crew Next Generation de l'univers miroir. Donc, ça semble très intéressant. Ce que j'ai cru comprendre, c'est un prequel aux épisodes de l'univers miroir de Deep Space Nine, dans le sens que c'est comme un des derniers vaisseaux de Starfleet, ils sont sur le Stargazer, et donc c'est une espèce de ce genre d'histoire-là. Donc je suis curieux, j'ai malheureusement pas pu mettre la main dessus parce que je travaillais.
Moi je l'ai lu. Ouais, moi je l'ai puis je l'ai lu. Ben, c'est quand même bon. Faut dire, hein, c'est vraiment un épisode 1, puis tu sais, dans le sens de l'épisode 1, là, c'est genre...
C'est plus un issue 0.
Juste avant la pause de la première émission.
Ben, c'est ça. C'est un Free Comic Book Day. Ils vont pas te donner...
C'est ça. Mais on suit principalement le lieutenant Barclay.
OK.
Dans une histoire vraiment très miroir-like, là. Où est-ce que évidemment c'est Capitaine Picard qui dirige, on voit Data qui a assimilé de l'équipement Borg pour s'améliorer. on voit pas tant que ça de monde sinon à part de ça de la série originale de Next Generation, c'est ça, on voit Picard, on voit non, on voit pas Riker.
Ah, non.
On voit par exemple la conseillère Troy.
OK.
Puis c'est ça. J'ai dit qu'on voyait Data. On voit Barclay. Puis le reste, c'est des PNJ.
Okay. C'est-tu un Barclay avec qui a confiance en lui?
Non, mais c'est pas un Barclay qui. Tu sais, c'est un Barclay, par exemple, qui va oser là-dedans. Okay. Qui va. Puis genre, qui va finir par acheter. Ah oui! On voit Tachayor.
Oh!
Oui. Elle a un rôle assez important. C'est quand même cool. C'est une bonne BD. Je t'en passerai JP quand je passerai à aller te voir pour aller te donner le bouquin.
Oui, ce serait très apprécié. Merci pour ce petit mini aperçu. Je suis curieux de voir la suite. Je vais peut-être attendre là, souvent ce qu'ils font à IDW. C'est pour ces genres de séries-là. Ils vont sortir les single issues, comme on dit en anglais, puis ensuite ils vont mettre ça en paperback et ils vont sortir un livre avec tous les numéros dans le même. C'est ce que j'ai fait avec Khan. Et,
dans un an?
Ben, généralement, c'est un an ou 6 mois, ça dépend. Là. En fait, généralement, c'est comme 6 mois après la fin du. la fin de la série.
Pour les Français qui sont moins comiques, dites-vous bien que c'est comme les tankoubons au Japon. Là. Ils sortent en petite BD jetable, puis après un tout petit, puis après ça sort un gros recueil comme qu'on a.
Écoute, sinon, mais j'ai vu que le Comic-Con de Montréal allait avoir un premier invité Star Trek. Ce n'est pas un membre du cast, des main casts, mais ça reste, c'est Tony Todd, pour ceux qui ne replacent peut-être pas. Oh. C'est celui qui fait Kern, le frère de Worf. Et on l'a aussi vu dans le magnifique épisode de Deep Space Nine, The Visitor, où il faisait le Jake Sisko plus vieux. Donc, c'est un acteur très reconnu. Il a fait beaucoup de rôles. Et justement, il a retweeté notre réponse sur Twitter parce que, en fait, quand le Comic-Con a annoncé, il n'avait pas mentionné Star Trek. J'ai dit au Comic-Con, « Hey, vous avez oublié que Tony Todd est aussi un Klingon fantastique et aussi le frère de Worf. » Et il a retweeté ça. Donc, c'est vraiment... Merci beaucoup, Tony. Je sais que tu n'entendras pas ça, mais c'est pas grave. sinon...
Tes escapades sur Twitter attirent l'attention de la masse critique préquie.
J'ai des bonnes conversations avec Larry Nemechek, qui est quelqu'un qu'on connaît sous le nom de Dr. Trek, qui est quelqu'un qui depuis comme 20-30 ans, s'occupe des magazines de Star Trek et de documentaristes. J'entretiens des fois quelques petites conversations avec lui. Donc, ça met en contact avec les bonnes personnes là-dessus. Donc, Twitter, si tu veux te mettre en lien avec du monde influent, c'est la bonne place. Surtout que Star Trek, c'est une petite planète, cet univers-là. Une fois que tu commences à t'intégrer, là, ça passe bien. Parlant de Twitter, je tenais à saluer tous nos auditeurs. Mes amis sur mes échappements de mes escapades twitteresques, je pense surtout à Miss Star Trek, DS9 in Hell et Manu Sadia, Trekonomics. Donc, je vous salue bien haut et bien bas. Merci d'interagir avec moi sur Twitter. C'est toujours plaisant de s'envoyer des vannes. Swear Trek aussi, je sais qu'il parle pas super français. C'est un gars de l'Ontario, c'est un gars d'Ottawa. Mais ses gifs me font rire à chaque jour. Il est même venu me demander des conseils pour sacrer en québécois. je me demande encore pourquoi. Mais si le gars de Swear Trek vient me poser des questions à propos de comment sacrer en québécois, il y a quelque chose.
Ouais, mais JP, t'es pas si bon sacreur que ça. Je pense que je suis meilleur que toi.
Ouais, je sais.
Tu me mettras en contact avec le gars.
sinon, je sais pas si vous avez vu, cette semaine, il y a quelqu'un du nom de... C'était quoi son nom? C'est Patrick Collins sur Vimeo qui a lancé une vidéo de 22 minutes 12 secondes. En fait, c'est le premier film de Star Trek The Motion Picture, avec la musique de Tron Legacy, composée par Daft Punk. Il a mélangé les deux ensemble et c'est fantastique. Personnellement, j'ai vraiment...
Ouais.
Moi,
c'est Daft Punk, là. C'est à la base, là, c'est déjà... Puis, en plus, ils se sont vraiment lâchés, là, Daft Punk, pour ce film-là. Là. La musique est écœurante.
Puis, il faut dire, personnellement, c'est The Motion Picture, je sais que beaucoup de monde ne l'aime pas, mais... moi, j'adore le visuel, j'adore l'esthétisme de ce... On va se cacher pas, c'est un reboot en tant que tel là, de Star Trek. C'est Gene Roddenberry qui a de l'argent puis un budget, puis il s'est fait dire, tiens, il va faire Star Trek.
Il n'est pas si pire que ça si tu le passes à vitesse 1.25.
Moi, c'est sérieux.
Mais, ouais, nous, on l'a regardé en accéléré, puis ça s'est fait, là.
Ouais. Ben, c'est ça. Mais comme tu dis, moi, je suis quelqu'un qui va voir les idées derrière le film. C'est ça qui vient me chercher plus que le film lui-même. Mais en tout cas, pour vous dire, si vous ne l'avez pas vu, j'ai posté sa page de Parlons Trek sur Facebook. Allez voir ça. C'est génial. J'ai vraiment adoré. C'est un bon petit 22 minutes. Puis il garde vraiment l'essentiel du film. Tu as la relation entre Decker et Ilia. Tu as toute la. comment dire, l'intro est bien montée, comment que le danger arrive, tout ça. Donc, en tout cas, c'est très, 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 très bien fait, très bien monté. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, je crois, est un éditeur professionnel qui voulait juste comme rajouter ça à son portfolio. Donc, félicitations, M. Collins. Très beau travail. Sinon, ben, c'est pas nécessairement Star Trek, mais on en a jasé. Ça nous a donné de quoi mettre, nous mettre sous la dent en attendant le trailer de...
Plus qu'inspiré, là.
J'en avais glissé quelques mots, surtout quand que Pierre m'avait fait parvenir cette photo d'une navette se promenant sur une autoroute aux États-Unis. Et je lui ai répondu, « Non, Pierre, ce n'est pas Star Trek. » Et j'avais raison.
Et la photo de Jonathan Frakes.
Oui, aussi la fameuse photo de Jonathan Frakes. Donc, c'est The Orville, la fameuse série de Seth MacFarlane, créateur de Family Guy, American Dad, Cleveland Show. donc, c'est, je crois, sa première série en live action. Il a fait Ted 2 et Million Ways de façon de mourir dans l'Ouest, A Thousand Ways to Die in the West. Mais c'est sa première série en live action.
Et what a série, hein?
C'est littéralement Galaxy Quest, là.
Et c'est magnifique, là. Je veux dire, niveau effets spéciaux, costumes, effets visuels, équipement, c'est A1, là. C'est du Star Trek level.
Ben, c'est du Star Trek. Pour être plus précis, c'est du Next Generation. La manière la passerelle a vraiment l'air d'un salon, c'est éclairé à grandeur.
C'est pour les fans de Next Generation.
C'est vraiment les fans de Next Generation. Moi, j'ai bien aimé la passe. Il dit, il y a le rayon qui fait vieillir la banane. C'est « Oh, wow, un rayon anti-banane. C'est bon, on n'a plus besoin de craindre la banane. » Moi, ça me fait rire. C'est des affaires niaiseuses qui me font le plus rire. Moi, personnellement, j'aime bien Seth MacFarlane.
J'ai-tu vu qu'il y avait Seth Green aussi?
Je
pense qu'il fait un rôle de genre... gars de la passerelle, là, communication.
Non, c'est un autre roux. C'est pas Seth Green. Mais on peut aussi noter la présence de Norm MacDonald qui fait la voix d'une espèce de blob semi-gélatineux. Ah,
le blob à terre.
Oui, elle était bonne, celle-là.
Personnellement, j'aime bien, si vous avez vu la série... J'essaie de me rappeler. C'est
dans une galaxie près de chez vous, m'a dit sérieusement. Non. Des galaxies près de chez vous avec du budget. Là.
Ouais.
C'est un peu la Galaxy Quest, en fait.
Ouais, c'est un peu la Galaxy Quest. Et on peut aussi Penny Johnson-Gerald, qui jouait la Cassidy Yates dans Deep Space Nine, fait dans l'officier médical du vaisseau. Donc, il y a définitivement une connexion Star Trek au niveau de cette actrice-là. Au niveau de la production, il y a Brandon Braga, Jonathan Frakes et Robert Duncan McNeil qui vont prendre le relais derrière la caméra en tant que réalisateur. Le premier épisode est réalisé par celui qui avait fait, si je me rappelle bien, c'était Iron Man. C'est
Oui, c'est Jon Favreau
qui réalise l'épisode pilote. Donc, il y a talent derrière ça. À savoir, là, c'est sur Fox. C'est toujours un danger parce que Fox a une tendance à canceller les affaires plus vite que la lumière. Mais le fait que c'est Seth MacFarlane va peut-être y donner une chance. Mais le fait que c'est une série qui doit coûter quand même assez cher va peut-être jouer contre lui aussi. On s'entend, c'est deux facteurs qui jouent dans la balance. Le poids.
Mais c'est une comédie. C'est une comédie, ça devrait aider.
Ça devrait aider.
Aussi, connaissant Seth MacFarlane, il y a quand même... Tu sais, genre, il a été capable de vendre sa première saison. Je disais, si ça marche, même si ça marche pas, puis Fox... Même si ça marche juste moyen, puis Fox font leur Fox, puis des sacs dehors, je te gage qu'il y aurait facilement, après ça, le poids nécessaire pour racheter ses droits, puis de le refaire d'un autre médium. Je disais, ça, là, c'est le genre de choses que Netflix... se délecte les doigts là, de mettre ses dents là-dessus. Là.
Ouais, mais personnellement, c'est le fait qu'il y a comme deux, trois autres séries déjà sur Fox, ça a peut-être joué contre lui un peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, on verra. Moi, ça a un look, comme je disais, ça a un look très Next Generation. Personnellement, j'ai bien hâte de voir ça. En plus, ceux qui... le capitaine, en fait, aussi, à noter, son premier officier, c'est son ex-femme, qui est joué par... je me rappelle, est-ce que j'avais vu... Adrienne Pali.
Oui, c'est Adrienne qui... Ouais.
Paliki.
Paliki.
Qu'on l'avait vu dans Agent of Shields.
Oui.
Donc,
moi, et qui a déjà fait Wonder Woman dans une série pilote qui n'a malheureusement pas sorti officiellement.
Ah, détail que je ne savais pas.
Oui,
mais ce qui est drôle, c'est que dans
Agent of... Wonder Woman.
Ah. Mais ce qui est drôle, c'est que dans Agent of Shield, elle avait aussi la gimmick ex-femme avec son ancien mari dans la même équipe.
Ouais.
Oui, oui, l'Australien, là, oui, oui.
Ouais, mais c'est juste drôle un peu, là, c'est... Il avait essayé de faire une... je pense qu'ils ont fait un épisode pilote pour un spin-off avec ces deux personnages-là, mais ça n'a pas marché. Fait qu'on dirait qu'elle... En tout cas, elle est retournée, c'est tombée sur ses pieds dans cette série-là. On va...
Agent of Shield, anyway, ça tient...
Ouais, ça tient parce que ABC est détenu par Disney. Et Disney qui détient Marvel, donc c'est très vertical comme affaire. Donc, c'est pas nécessairement dans leur intérêt de flusher ça en deux secondes. De toute façon, ils ont probablement ça. Ils sont peut-être à leur dernière. Là, je pense que cinquième saison, ce serait un bon moment pour peut-être... Puis là, ils ont un spin-off des Inhumans qui s'en vient. Ce serait peut-être un bon moment pour passer à d'autres choses. Là, pour cinq saisons de nos jours, c'est quand même très bon. Surtout un rythme de... Ils font un ancien modèle à 24 épisodes, 22 épisodes par saison pour Agents of S.H.I.E.L.D. C'est quand même beaucoup. Donc, de nos jours, si une saison sera une série sera en 5 saisons à force de 22 épisodes ou 24 épisodes par saison, c'est très, 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 très bien. Là. C'est très vénérable.
Puis surtout, à l'époque de Stargate. Là.
Puis moi, surtout que je trouve que la série est surtout pour faire un lien entre les films. Parce que quand les films sortent, on voit super bien les liens, mais là, il n'y a pas de film depuis un an et demi.
Ben,
alors, la série, j'ai de la misère à la suivre.
Ouais, ben, il n'y a pas de lien sur la Terre, là, parce qu'on s'entend que Thor qui s'en
vient. Non, c'est sûr que Ragnarok, il n'y aura pas de lien, mais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais Ragnarok, il y a des liens avec Guardians of the Galaxy.
Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas sur Terre où ce que Agents of S.H.I.E.L.D. se passe. Mais on est à une émission qui s'appelle Parlons Trek. On est supposé de parler de Star Trek.
Donc, on est des geeks.
On est des Trekkies. Le fameux trailer, on va y aller avec Patricia, c'est notre invité spécial. Juste tes invités, tes opinions.
Invité spécial, wow.
Tes opinions à froid comme ça, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que
ben,
tu
moi, premièrement, j'étais très contente de voir Michelle Yeoh. Mm-hmm. Qui est une grande actrice du cinéma de Hong Kong. Une très grande actrice, là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Elle a une cinquantaine d'années maintenant. Et moi, je trouve qu'elle a vraiment une gueule de capitaine, cette femme-là.
Ouais.
Je trouve qu'elle a vraiment là, une attitude professionnelle.
Un petit peu pince sans rire, peut-être, on dirait, avec. Tu sais, au début, là, quand elle dit bon, c'est le temps que tu aies ton commandement, on dirait qu'elle. Quand se prend des fois peut-être pas toujours au sérieux, c'est la petite pincette d'humour Star Trek peut-être qui vient.
Oui, mais ça va bien ça parce que c'est un point de vue qu'on n'a pas vu souvent. Tu sais, à part peut-être Jonathan Archer, puis encore là il était plus bold que d'autres choses. Ouais. Mais sinon sa façon d'être est vraiment très différente. Puis on apprécie ça.
Ouais.
Ouais, ben moi j'aime ça moi son petit côté pince sans rire un peu là, comme tu dis.
Ouais.
Sinon, ben moi quand j'ai vu Soneca Martin, j'étais très contente parce que c'est une de mes actrices préférées qui joue dans Walking Dead.
Ouais.
Puis je trouve cette jeune femme-là, beaucoup de charisme à l'écran. Puis si je pense, ça va être sa second in command, d'après ce que je comprends. Ouais. Très bon choix. Elle aussi, tu vois qu'elle a l'air d'avoir toute une attitude. Moi, quand je l'ai vu au début, je pensais que c'était une vulcaine parce que elle avait l'air très, très straight, là, très
stiff,
très sérieuse.
Ouais.
J'ai un peu pensé à T'Pol un peu dans son attitude. Là.
OK, ouais.
Il faut mentionner aussi qu'elle a ses sourcils à la mode Vulcan. On la voit interagir avec un Vulcan dans le trailer. T'sais, on voit qu'elle a des gros liens avec Sarek. Là.
Donc,
Non, c'est ça. J'avais comme l'impression qu'elle avait du sang Vulcain. Mais bon.
Peut-être un membre de la famille de la femme de Sarek. Peut-être.
Non, c'est ça. Puis j'aime aussi qu'elle a l'air. Comme je vous dis, moi, elle me rappelle un peu Tepple. Ça a l'air de quelqu'un de très, très affirmé. Puis je pense qu'elle ne gêne pas pour dire son opinion au capitaine.
On a pu l'entendre. Quand elle dit bon, il faut tirer en premier, il faut y arracher le coup. Peut-être justement.
Tu vois qu'elle a du torque, là.
Ouais.
Mais le bout, quand il se téléporte là, dans le désert, hein, j'ai vraiment vérifié si ses oreilles étaient pas pointues.
Non, c'est vrai, hein?
Elle a vraiment des oreilles humaines.
Ouais.
Oui.
Elle a des oreilles humaines, mais comme on disait, elle a comme les sourcils un peu vulcains. Donc, est-ce qu'elle aurait du sang vulcain en elle?
Ou élevé à la vulcain.
Je pense que c'est peut-être plus élevé à la vulcain. Ça, c'est mon avis. Ouais, on viendra sur nos théories un petit peu plus tard dans l'émission.
Je ne peux être plus enchanté que voir que ces deux femmes fortes dans cette série-là qui semblent avoir les rôles clés.
Ouais.
Donc, j'ai très hâte de voir ça. Moi, je suis pas très fan du Capitaine Janeway, là.
Personnellement. Okay. Oh. Pierre, t'es pas déçu un peu, là?
Non, pas du tout.
Ben, bien que c'est une grande femme de théâtre qui la faisait, j'ai toujours un peu de la misère avec son interprétation. Je trouvais qu'elle avait l'air un peu bitch.
Ouais.
Puis j'ai toujours trouvé que son autorité reposait plus sur le fait qu'elle était sec. Puis que, tu sais, t'es comme un peu bitch des fois dans ses interactions.
Janeway, c'est une amirale, c'est pas une capitaine.
Ouais, c'est sûr. Mais...
Ouais.
J'aimais pas vraiment, tu sais, j'avais comme l'impression que ça fait un peu comme une féministe qui veut tellement être féministe qu'elle devient plus bitch que la bitch, là.
Ouais.
Tu sais, c'est... Moi, j'aime mieux un personnage féminin fort, mais qui va être dosé quand même dans ses interactions. Puis moi, ce que j'ai vu dans le trailer, c'est sûr que c'est pas long, là, le teaser, mais moi, c'est sûr que ça m'a enchanté de voir ces deux personnages-là féminins. Moi, de toute façon, Michelle Yeoh, je l'adore à la base. D'habitude, elle fait ses propres cascades dans tous ses films. Je sais pas si elle fera des cascades dans cette série-là.
Apparemment que Jackie Chan a peur d'elle, donc...
Oui! effectivement, elle fait toutes ses cascades.
Elle a déjà traité Jackie Chan de poule mouillée.
Elle avait traité Pierce Brosnan de poule mouillée parce qu'elle avait été une Bond girl dans un des films de James Bond. Ouais. Elle avait fait toutes ses cascades elle-même, puis Pierce Brosnan, lui, ça a l'air qu'il avait une doublure pratiquement pour chaque scène. Parce qu'il était trop chicken pour faire la plupart de ses cascades. Mais elle les a toutes faites. Fait qu'elle riait pas mal de Pierce Brosnan. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire. J'ai hâte de voir aussi la dynamique que ça va faire. Moi, en tout cas, je suis enchanté.
Ouais, deux femmes au commandement, c'est une première pour un vaisseau.
Il nous manque Jason. En fait, il manque le Discovery au complet. Il nous manque Jason Isaac.
Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est le Shenzhen.
Shenzhou,
qui est... particulièrement spécial comme Starship parce que la passerelle est en dessous.
Oui, en effet, si on pourra revenir un peu plus tard.
Avec un gigantesque view screen, là. C'est une grosse fenêtre là, qui donne directement sur l'extérieur. Je trouve ça absolument magnifique. C'est vraiment un beau, une belle
Pierre, façon de prendre. Dis-nous ce que tu penses, toi, du trailer. De quelles sont tes impressions? Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
La première chose qui retient mon attention, c'est Colin, c'est une série TV, ça? Je pensais que c'était un film. La qualité graphique est écœurante. 9 millions par épisode, c'est ça?
Entre 6 et 7 millions par épisode.
Ça paraît. Les effets visuels, les décors, les locations, les costumes.
Ouais, d'ailleurs, la scène dans le désert, ils l'ont filmé en Jordanie. Là, c'est la première fois qu'ils ont été à l'extérieur des États-Unis. À l'extérieur du continent, parce que Discovery reste tourné à Toronto, pour filmer une scène en location, là, c'est quand même quelque chose de très, très puissant. Là.
C'est drôle, Pierre, que tu dises ça, parce que dans les commentaires du vidéo sur YouTube, il y avait beaucoup de monde qui disait « Oh, les effets spéciaux ont l'air lame pour une série TV. » J'ai lu ça, j'ai dit « Voyons, je dis que c'est à quoi les gens s'attendent. Pour une série télé, c'est excellent.
» Ouais, mais c'est ça, souvent, c'est des trolls, honnêtement. Faut pas y porter attention, là.
Comme beaucoup de gens, les uniformes me laissent légèrement perplexe parce que je me demande est-ce qu'on est dans le Kelvinverse ou dans l'univers normal.
Mm-hmm.
D'un autre point de vue, on a vu que, dans, mettons, si on se fie au Star Trek original, justement, qu'on a parlé, le motion picture, ils ont carrément changé les uniformes. Ils ont changé ensuite, tout de suite après, pour The Wrath of Khan. Il y a eu clairement une grosse évolution aussi à partir du moment où il y a le Kelvin et qu'on est rendu sur l'Enterprise dans le Kelvinverse.
Ouais. Starfleet aime changer ses uniformes.
Oui, puis c'est des beaux uniformes.
Oui. Sont réminiscents de Star Trek Enterprise. On se cachera pas le bleu, les coutures de différentes couleurs. C'est des couleurs métalliques. Donc, c'est un petit peu plus subtil, je pense, comme costume comparé aux couleurs qu'on voit là, à partir de... Ben, dans la série originale, puis dans Next Generation, Deep Space Nine. Mais quoi que dans Deep Space Nine, quand ils sont virés aux épaules grises, c'est un petit peu plus discret des couleurs. Là.
Moi, j'ai tout de suite pensé au costume à Jonathan Archer. À cause du bleu foncé, là, j'ai fait « Ah! » Puis même que j'ai vu ça au début, j'ai dit « À quelle époque ça se passe? Ça se passe-tu directement après Archer? » Tout à fait.
À peu près une cinquantaine d'années après.
80 ans. À peu près. Là.
Mais tu sais, on voit que le bleu foncé, le bleu royal, un peu, est comme resté.
C'est l'uniforme de transition, tout simplement.
Oh. Ouais, mais en fait, il y a une théorie qui disait que Starfleet change ses uniformes souvent pour que les voyageurs du temps soient capables de spotter à quelle époque ils sont.
Ben, ça serait logique.
C'est pas con. Mais, question de même, c'est qui le directeur de
ce film? Le réalisateur, réalisateur d'une série de télé, ça change d'épisode en épisode. Je pense que pour le premier épisode, c'était un dénommé David Semmel. Je vais aller rechecker ça. David Semmel, en effet, réalisé des épisodes de Goliath, Pure Genius, Code Black, Madame Secretary... Legend.
Qui que ce soit, là, c'est un gros fan de J.J. Abrams. Parce que du lens flare, il y en a.
En fait, beaucoup. Là-dessus, quelque chose qui me met un petit peu de doute, c'est que dans le trailer de Netflix, il n'y en a pas de lens. Parce qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Ils sont vraiment rajoutés en post-production. Je ne sais pas si c'est vraiment pour le trailer qu'ils ont rajouté. Mais tu regarderas le trailer Netflix encore, là. Il y a beaucoup moins de lens flare.
Ah, on va faire la comparaison au fur et à mesure. Hey, le space suit, tu naisses à ton goût?
Oui, très...
Il est vraiment.
Mais donc, ça fait-tu le tour un peu de tes opinions? T'avais-tu d'autres choses à...
Oui, quand on arrive au moment des Klingons, là...
Ouais.
Oh my God! On n'a jamais vu la société Klingon comme ça. On a vu la société Klingon beaucoup dans Deep Space Nine, dans un petit peu dans Next Generation. On a vu des bribes dans Enterprise. Mais là, ce qu'on voit là-dedans, c'est un autre point de vue, une autre culture.
Ouais.
Puis ça tombe bien. Les Klingons ne doivent pas être une culture simple et
Une monoculture, et boboche, on s'entend.
C'est ça, une monoculture, surtout au nombre de personnes qui sont. On voit vraiment, c'est du Star Trek. Je vois pas pourquoi il y a du monde qui troll de même. C'est Star Trek. Et on voit dans le trailer original, on voit à 1 minute 50, à 48, 49, on voit un robot.
Ouais, en fait, je suis pas certain que c'est un robot. J'ai peut-être un casque à réalité augmentée. Je suis pas sûr parce que j'hésite là-dessus. Je suis pas sûr si c'est un casque ou si c'est un robot.
En l'air d'un Daft Punk.
Ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi parce qu'on voit un bout de peau de cou. Puis c'est marqué USS Shenzhou. Ouais, ouais, je pense que c'est un casque de réalité augmentée, mais je pense que c'est un casque un peu à la Iron Man là, en métal intelligent là, qui se déploie.
Je pense que
là,
quand Brian Fuller parlait de robot, c'est peut-être celui qui, avec l'interface autour de sa tête, un peu comme Lobot dans Star Wars. C'est peut-être ça qui parle de quand il parle de robot. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas un Android à la Data, mais peut-être justement plus quelque chose dans la cybernétique. Un humain augmenté ou avec de la cybernétique dans son cerveau, ce qui est entièrement possible, étant donné l'évolution technologique vers laquelle on s'en va. Puis ça, justement, ça peut aussi mener à des épisodes intéressants avec ça. Donc,
De quelle race vient, pardonne-moi mon ignorance, mais l'extraterrestre qu'on voit beaucoup là?
Celui qui dit qu'il sent la.
Oui.
Ça, on ne sait pas. C'est une nouvelle race qui a été créée pour Discovery. Mais il est interprété par le légendaire Doug Jones. Donc, ceux qui aiment Labyrinthe de Pan et Hellboy, surtout. C'est pour ces deux rôles-là qu'il est le plus connu.
Ah oui, il est bon pour faire des créatures mystiques.
Je me demande toujours si c'est pas le personnage qui est dans la série animée. Lui qui a six bras. Là.
Ouais, mais ça.
Tiens, on n'a pas vu ses bras, là.
Je pense que oui, mais fou. Non, je ne penserais pas, là. Mais ce serait peut-être le fun de voir justement le lieutenant Rex. Je dirais pas non à le voir à Manu.
Ouais, c'est ça son nom, ouais.
En fait,
il y aurait une voix différente.
Il y avait un bras dans le milieu de son chest, si je me rappelle bien.
Ah, ok, c'est trois bras. Ok, je pensais que c'était six bras qu'il y avait.
Sinon, toi, Marc, dis-moi tes impressions. À chaud comme ça.
Ben, c'est sûr qu'au début, quand on les voit dans le désert, c'est sûr que ma première impression que j'ai eue, c'est Star Wars. J'ai fait. Ils ont copié le concept, mais sauf que je me suis dit, bon, on va l'essayer, on sait pas, c'est juste un trailer, il y a peut-être une histoire pourquoi ils sont là. Ouais. C'est peut-être Vulcain, la planète, tout simplement, là, parce que ça ressemble pas mal à Vulcain. Mm-hmm. Puis comme je t'ai mentionné un petit peu tantôt à toi quand on était en privé, moi j'aime pas les Klingons comme je les vois, c'est ça. Moi j'adore les Klingons, mais de cette façon-là, mais oui, l'histoire, comme c'est peut-être ta théorie que je vais te laisser compter. Ouais. Mais à part ça, j'ai tellement hâte, j'ai été heureux de voir ça. Puis comme tout le monde, je comprends pas pourquoi le monde critique.
On est sur Internet, le monde critique pour le
plaisir. Je sais que le monde, ils savent même pas pourquoi ils critiquent. Là. C'est juste pour chialer, ils s'attendent que le monde va les suivre.
Ouais. C'est 2017, tout le monde a son opinion à dire. Puis...
Ouais. C'est ça.
Donc, c'est pas mal. C'est juste ça, Marc? Y a-t-il d'autres choses?
Non, mais le reste, c'est comme tout le monde. Là. Moi, j'adore les nouveaux uniformes. Je les trouve plus beaux que... Hey, là, chez moi, TOS, les uniformes les plus laids au monde. Malgré que c'est pas mal mon uniforme que je vais porter quand on va être à Ticonderoga, mais...
Ouais. Tu vois, c'est la version Kelvin, là, quand même. Là.
Ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, au moins, la version Kelvin est un peu moins pire. Là. TOS original, c'est des pyjamas. Next Generation, c'est encore plus des pyjamas.
Des pyjamas!
au moins rendu à Voyager des Space Nine, ça va l'air un peu moins pyjama. Là.
Ouais, moi, comme tu dis, moi, j'ai choisi mon uniforme, moi, c'est celui, les épaulettes grises,
C'est DS9, puis les films de Next Generation, First Contact. C'est comme le mien, moi aussi, c'est ça mon uniforme.
Ouais, c'est sûr qu'il est beau, mais tant que c'est pas des jumpsuits, là. Ouais. C'est des jumpsuits.
Mais quoi qu'honnêtement, le jumpsuit d'Enterprise, je dirais pas non. Il est pratique, il est très utilitaire, il y a des poches.
Ben, c'est sûr que c'est un après-terrien. Nos astronautes portent des jumpsuits, là. C'est un petit peu normal.
Je pense que celui de Enterprise est le plus réaliste. C'est ça, celui de Star Trek Enterprise est le plus réaliste.
Moi, je vois le paquet de Riker, là, dans Next Generation.
surtout quand il saute la chaise pour s'asseoir dessus, là.
Ouais, quand il fait son concours de chaise.
Et boy.
Je verrais comme un concours de chaise musicale, ben ça, Sauf qu'au lieu de tourner autour de la chaise, faut que tu sautes par-dessus.
Faut que ça soit comme Riker. C'est ça la croisière, JP.
Avec, en faisant jouer un album de Warp 11 ou Five Year Mission. Ouais. Là. sinon, mes impressions à moi, je vais être bien honnête, ils ont gardé l'esthétique du USS Kelvin. Ça inquiète bien du monde, mais je peux comprendre pourquoi. Premièrement, c'est quelque chose auquel je n'étais pas sûr, mais là, on dirait que CBS a décidé vraiment de... de canonifier l'esthétique du Kelvin comme il a été présenté dans le premier film de Star Trek. Parce que, souviendra, la fameuse divergence là, temporelle entre les deux univers de Star Trek, celui des films, celui des séries, se passe en 2233. Donc, techniquement, le USS Kelvin est canon dans la timeline originale. Donc, son design, surtout, là, on remarquera la chaise est quasiment identique à celle du Kelvin. L'interface est très similaire, est un petit peu plus sleek que celle du Kelvin. Mais on dirait vraiment qu'ils vont se baser là-dessus. Puis je peux pas leur en vouloir. Les nouveaux films de Star Trek ont apporté des nouveaux fans, un. Et de deux, on pouvait pas comme faire... T'sais, des cols roulés en velours, là, non merci.
Non, mais on ne peut pas leur enlever. C'est rendu beau esthétiquement, les nouveaux univers. Peut-être qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je suis pas contre. Ça a apporté des fans, comme tu dis.
Ouais, c'est ça.
C'était super beau. Que, hein.
C'est ça. C'est juste du visuel. Ça change rien à l'histoire. Ça change rien à la narrative. Jusqu'à date, il n'y a rien qui change la narrative ou le canon en termes d'événements ou de personnes ou de lieux. Donc, pour moi, jusqu'à date, pas de problème là-dessus. Vas-y, Pierre.
Mais tout ce que je veux dire, c'est que oui l'esthétique physique de l'intérieur de la passerelle a fait très Kelvin, mais je veux dire, pour le reste, là, je veux dire, oublie ça, le ship, là, il fait beaucoup penser au ship normal. Et en plus de ça, je m'excuse, là, mais si tu regardes comme il faut, les consoles, ils ont l'air beaucoup d'un mix entre
ils ont des boutons physiques. En fait, il y a trois types d'interfaces. T'as l'espèce de panneau transparent d'un bord, t'as les écrans tactiles de l'autre, et t'as des boutons physiques dans le milieu. Puis je pense que même c'est sur la console de navigation, il y a un joystick.
J'espère. Ça prend du manuel. En tant que pilote du USS...
Oui,
USS Solstice. USS Solstice, ça prend un joystick.
Mais ça doit être plus facile qu'un clavier comme dans les épisodes qu'on est habitués, là. Ouais. Moi, conduire avec un clavier puis être précis, en plus ça, c'est des touches, là. Ouais. C'est trop drôle.
C'est tout de la conduite assistée, là, on s'entend. Mm-hmm. Mais sinon,
mais,
j'ai...
Bref. Juste pour finir mon affaire, c'est que si tu regardes comme il faut la forme de la passerelle, c'est vraiment plus un clin d'œil à la passerelle de l'Enterprise, mais l'Enterprise des films avec Kirk.
Ouais. En fait, t'as pas de siège pour le premier officier. Ça, c'est correct. Mm-hmm. Les deux consoles en avant, c'est correct.
T'as des consoles, ses côtés, tu sais. Comme je te dis, ça ressemble au film avec Kirk. Tu sais, à partir du... l'Enterprise 1A. L'Enterprise
A. Ouais. Pour en venir à mes impressions, j'ai une vibe très Mass Effect, vraiment. L'effet Warp me fait penser beaucoup à Mass Effect. Je sais pas pourquoi, l'espèce de petit grid pattern dans la téléportation, ça me donne un petit effet Mass Effect, l'éclairage. Je sais pas si c'est volontaire. Personnellement, j'ai adoré Mass Effect. En fait, les uniformes aussi. Oui. Regarde, les uniformes bleus avec les bordures dorées. Très Mass Effect aussi. Je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux juste dire que ça me fait penser à Mass Effect. C'est pas bon, c'est pas mal. C'est juste ça me fait penser à ça.
Mais il ressemble pas aux téléportations des Borg aussi.
Oui.
Ouais, 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 ça ressemble pas mal aux Borg.
Mais si tu veux un autre truc qui ressemble encore plus Mass Effect, là, sérieusement, The Orville, là, si tu regardes le feeling du vaisseau, là, il fait très Mass Effect ouais. aussi.
Mais sinon, comme je dis, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu le USS Discovery.
Ouais mais c'est là, ça.
Mais en même temps...
Ils veulent nous laisser ça, là.
Ils veulent nous laisser ça. C'est peut-être aussi justement parce que l'action ne se passe pas sur le Discovery dans le premier épisode ou dans l'épisode pilote. Ouais. Peut-être qu'il arrive juste comme à la fin de l'épisode pilote, puis dans le deuxième épisode ou troisième épisode, ben là, il embarque sur Discovery. Puis, ou peut-être que, honnêtement, peut-être que l'épisode pilote se passe un ou deux ans avant le Capitaine Lorca. Parce que là, je vais rentrer dans les théories un petit peu poussées, avancées. Si on regarde, les rangs sont dénotés par les petites pipes sur le badge sur le chest.
Ouais.
On peut voir que le personnage de Sonequa Martin Green, Commander Burnham, en fait, justement, est full commander. Elle a les trois pipes et il n'y en a pas de noir. Parce que si on regarde le lieutenant Saru, je pense que c'est le lieutenant-commandeur parce qu'on voit trois puis une de noir, si je me rappelle bien. On en voit une qui est vraiment noire, là. Donc comme soit sous-lieutenant ou lieutenant-commander. Mais elle en a vraiment trois solides. Donc, où est-ce que ça me dit? Là je rentre vraiment dans... On rentre en mode théorie à GP. Ce qui se passe dans l'épisode pilote va faire en sorte qu'elle n'aura pas son commandement, qu'elle va être rétrogradée à lieutenant-commander, comme le grade qu'elle a été annoncé au départ, et qu'elle va être ramenée sur le Discovery pour résoudre peu importe ce qu'elle a causé en allant explorer l'artefact qu'elle semble peut-être avoir réveillé, l'artefact ancien Klingon, qui a peut-être justement réveillé des Klingons ancestraux, qui ensuite a causé la pagaille. Donc, c'est ma petite théorie là-dessus.
Ça serait la première, pareil, hein, de faire qu'on commence avec un ship, puis on finit pas avec, on change de ship.
Ouais.
Sauf que, tu sais, la théorie qu'on sait que probablement c'est ça l'histoire selon du second officier, c'est elle qui raconte l'histoire, ça serait quand même peut-être que les images qu'on a vues, que tu vois qu'avec Commander, c'est peut-être dans le futur, puis elle se rappelle des histoires du passé.
Ou c'est simplement peut-être le contraire, ou comme je te dis, c'est peut-être le contraire
ça
aussi.
Ça peut être ça.
Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, parce que quand ils ont décrit le personnage de Lieutenant Commander Number One, ils disaient « a Lieutenant Commander with caveats », c'est-à-dire un Lieutenant Commander avec des conditions, avec quelque chose d'un peu spécial. Donc, le fait qu'elle a eu une démotion serait peut-être ce fameux caveat-là.
Peut-être.
Peut-être, justement, le fait qu'elle ait trop tête de cochon, comme Patricia nous semblait dire. Elle avait, tu sais, elle s'est boquée, elle a causé un incident diplomatique, rétrogradation, mais est réaffectée ailleurs pour résoudre ce qu'elle a causé.
Le problème.
C'est qu'il y a peut-être eu insubordination.
Peut-être, c'est ça, parce qu'on... C'est ça, on voit qu'à part en EVA suit, un peu justement, d'ailleurs, la séquence du EVA suit me fait vraiment penser à la scène où Spock, dans The Motion Picture, il déclenche...
On va pas aller voir V'ger.
C'est ça.
Les deux ont fait ça sans autorisation, puis les deux ont pris un suit propulseur.
C'est ça. Donc... Encore là, le suit me fait penser à Mass Effect aussi. Tu sais, le blanc avec les petits points de propulsion.
Très armuré, très ouais, différent des suits qu'ils ont dans films récents de Star Trek.
J'ai comme l'impression que Mass Effect a eu un impact important sur la science-fiction.
Comme l'a eu Halo aussi à l'époque. À Star, le vidéo ludique est très inspirant.
Oui. Mais c'est ça. Donc... en fait, c'est ça. Donc, et ensuite, on arrive un petit peu plus tard dans le trailer, ce qui est des incoming warp signatures de Klingons. Donc, ça, j'ai l'impression que ça va être les Klingons traditionnels, soit avec des bumps ou pas de bumps. Parce que ceux qui ne savent pas, le fameux virus de Klingon qui leur a donné la tête plate, apparemment n'a pas rejoint l'entièreté de la race. Il y a encore des Klingons qui n'ont pas été touchés par ça, soit qui étaient sur des colonies éloignées ou qui l'ont pas eu, qui est une immunité naturelle. Moi, j'ai l'impression justement que c'est Warp Signatures, c'est l'Empire Klingon original qui vient voir ce qui se passe quand ils ont réveillé ces Klingons ancestraux-là. Puis ensuite, c'est Klingon
ancestraux. Comme on voit dans Star Trek Voyager, il y avait un vieux vaisseau rempli de Klingons qui voyageait depuis 200 ans. Puis qui cherchait à trouver, puis ces Klingons-là étaient des Klingons, genre que.
Ouais, c'est ça, il y avait une religion, tu sais, c'est ça. C'est pas à cause que. Ils disent avoir tué leur dieu, mais ça reste une histoire pareille. Jusqu'à preuve du contraire, on s'entend.
Mais dans le teaser, je trouve que le Klingon qu'on voit, il y a un peu la gueule du Klingon dans le film Into Darkness.
Oui, mais je pense qu'ils sont probablement inspirés. En fait, Neville Page, qui est un des artisans au niveau du make-up, a travaillé dans les films aussi du Kelvin Timeline. Donc, c'est sûr que ça vient se rapprocher. Il a travaillé là-dessus aussi. Il a fait le make-up pour les deux, là, pour Discovery et pour les nouveaux films des dernières années.
C'est ça, parce que moi, quand j'ai vu le Klingon, c'est la première chose que j'ai pensé, c'est à Into Darkness. J'ai dit la façon dont le front est travaillé.
Oui. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir M. Neville Page, il est présentement, je pense qu'il est dans la série Face Off sur Space. L'espèce de reality show de maquillage d'effets spéciaux. Justement, il fait partie de l'équipe de Face Off. Donc, si vous voulez voir, c'est. En fait, je pense pas que c'est talent parce qu'il est plus là comme juge. Mais si vous voulez voir, là, il fait partie de ces missions-là. C'est ça. Moi, honnêtement, j'aime le. Personnellement, j'aime. Moi, je suis quelqu'un qui va essayer de rationaliser le tout le plus possible. Les visuels, je suis capable de passer par-dessus. Ça me pose pas trop un problème. Les uniformes, je suis moyen. J'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus de punch-up de couleurs. Mais je suis capable de passer par-dessus. D'ailleurs, j'ai demandé à notre amie Marie-Rine Cosplay son opinion sur les uniformes. Et elle, tout ce qu'elle a donné, c'est un « mais ». J'ai l'impression aussi, peut-être parce que justement, on voit sur les côtés, là, l'espèce de petites fiches, les petites écailles de poisson qu'ils ont sur le côté, c'est des petits deltas, un peu comme sur les. Ouais. Fait que c'est peut-être, justement, au niveau des cosplays, c'est peut-être un peu plus compliqué à recréer.
Ah, ça va être. En tant que cosplayer, je peux te dire tout de suite, ça va être un fucking enfer. ça se voit, là, je veux dire. On a différents tons, on a différentes textures, il y a des petites mini lignes.
En fait, c'est genre, on va se garder 500 pièces de côté, puis on va aller chez Anovos, puis on va s'en acheter un. Parce que.
Pas vraiment Anovos.
Non. Ben, juste retrouver l'espèce de teinte de doré là, qu'il y a sur le costume, ça va
être bien.
Doré ou argenté.
T'as doré, argenté ou t'as cuivré. Donc, t'as vraiment le. C'est vraiment plus subtil. Mais on a quand même les logos sur les badges qui changent, comme dans la série originale. Donc, la petite étoile pour le commandement, science, l'espèce de petit cercle. Puis t'as le engineering qui est une spirale. Ça, ils ont gardé ça. Bon, là, une des grosses gripes que le monde ont, c'est vraiment le fait que, justement, qu'est-ce qu'ils font avec l'insigne en delta sur leur uniforme? C'est supposé être l'insigne de l'Enterprise dans la série originale, puis chaque vaisseau était supposé avoir son insigne original. Ça, je peux vous dire, j'ai lu un article récemment qui notait là-dessus que Gene Roddenberry voulait que tous les vaisseaux de Starfleet aient l'insigne en Delta. C'était vraiment l'insigne de Starfleet. Et que les autres vaisseaux qui n'étaient pas Starfleet aient des insignes différentes. Sauf qu'il y a un mémo qui s'est comme perdu en quelque part. La communication s'est pas faite. Et parce que dans l'épisode Charlie X, t'as le vaisseau Lantaret, si je me rappelle bien, qui avait son logo différent, mais ça, c'est correct. C'est un vaisseau marchand. C'est un vaisseau qui n'était pas nécessairement Starfleet. Mais ensuite, quand que plus tard, quand il y a eu d'autres vaisseaux Starfleet, ben là, il y a comme quelqu'un qui ne s'est pas rappelé que Gene Roddenberry voulait le logo de l'Enterprise, ben Starfleet en Delta. Puis ils sont mis à faire des logos différents. Fait que c'est comme rentrer en canon. Parce que l'affaire, c'est que Gene Roddenberry n'était pas toujours là pour vérifier. Puis encore là, Gene Roddenberry, il n'a jamais vraiment hésité pour changer ou faire du retcon, pour changer son propre canon. On regarde justement, comme j'ai mentionné tantôt, The Motion Picture, le premier film, c'est, il n'a pas hésité à balancer par la fenêtre l'esthétique années 60, le moment où il y a eu moyennement un budget. Tu sais. Donc.
Puis de toute façon, quand on était rendu à Next Generation, tout le monde avait. Tout Starfleet était tout.
Mais c'est
comme
ça, mais la fin, c'est. La chose étant que c'est un narratif que les fans se sont comme rationalisé dans le fait que l'Enterprise était tellement grandiose que finalement Starfleet a décidé d'adopter son logo comme logo officiel. Bullshit. Je m'excuse, mais non. C'est non. 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 L'Enterprise, il aurait pu avoir quelque chose qui est très facilement rationalisable, ou je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est que chaque vaisseau de classe Constitution avait un logo différent, mais tout le monde avait le logo de Starfleet, puis l'Enterprise a juste hérité du logo de Starfleet. Tu sais, je veux dire, il y a des manières de rationaliser. L'affaire, c'est que ça n'a jamais été expliqué officiellement, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. De façon, le badge, on voit que c'est aussi, il est séparé en au tiers, un peu par-dessus. Donc, c'est pas nécessairement entièrement le Delta original non plus. Puis honnêtement, it looks good. Je veux dire, c'est. Un chest en métal, c'est beaucoup mieux qu'une chest en. qu'un insigne en tissu brodé, là. À moins que ce soit un mission patch vraiment comme Star Trek Enterprise sur le bras ou comme les militaires.
Oui.
Ou comme c'est quelque chose d'autre. Mais le petit logo brodé sur le chest, là, je m'excuse, toi, mais c'est ordinaire un peu. Là, je vais me faire essayer de ta mat par les puristes, mais c'est correct. Moi je suis très pragmatique là-dessus. Je veux dire, comme je disais, Gene Roddenberry.
JP, t'arrêtes pas de dire ça, là. Je vais me faire pitcher des tomates, puis à chaque émission, est-ce que vraiment tu te fais vraiment attaquer tant que ça?
Ouais, en tout cas, non, notre audience est beaucoup trop respectable. S'il vous plaît, envoyez-moi mes tétamates, là, je pourrais.
J'en ai une demi, là, en haut, là. Je vais t'affaxer, OK?
Sinon, j'avais demandé les opinions de quelques personnes sur Twitter. Justement, j'avais notre ami DS9 in Hell, Sci-Fi Trash, sur Twitter, qui m'avait dit « Femme de couleur en lead, c'est vraiment idéal. Personnellement, elle adhère au design des Klingons. Mais ça manque peut-être un peu d'humour et d'optimiste. Trouver ça froid, mais les effets spéciaux sont impressionnants. Donc, je suis un peu d'accord là-dessus. Ça manque peu de... La petite touche légèreté est peut-être absente.
Mm-hmm.
Comme je te dis, c'est l'épisode pilote. C'est toujours plus dramatique ce qui se passe dans l'épisode pilote.
Ils ont l'air de vouloir vraiment fesser fort vers les amateurs de Netflix. Puis qu'on sait que les amateurs de Netflix, c'est des gens qui cherchent des émotions fortes,
ouais.
Des situations complexes, puis etc. Puis vu que c'est justement, ça va être diffusé sur des. Principalement sur un streaming, quelque chose de streaming. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment fesser fort, puis avoir une histoire intense, complexe, avancée, avec des points de vue subtils, un cast extrêmement, multiculturaliste.
Un autre point de vue en 2 minutes 21 pour le trailer, c'est sûr que ça laisse pas beaucoup de place à l'humour non plus. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas.
Non, c'est sûr. C'est...
Ça s'apprêtait pas très bien dans le trailer là, de lâcher des petites
claques. Comme on disait au début, je pense qu'honnêtement, Michelle Yeoh, elle a l'air d'apporter une petite touche d'humour, une petite touche de légèreté.
Oui, quand même.
Donc, comme je dis, comme Pat a dit, en deux minutes, je pense qu'ils veulent montrer, ils voulaient en mettre dedans avec peut-être montrer d'action. Tu sais, souvent, si on regarde les anciens trailers des anciennes séries, là, ils vont pas montrer les speeches de Picard d'un trailer, tu sais. Ils ont montré Q, ils ont montré les grosses, tu sais, dans le temps, dans d'un counter à Farpoint, ils ont montré le vaisseau, ils ont montré le bridge, ils ont montré, tu sais, des affaires, ils ont placé des lignes de texte, mais comme pas en tout, là où ce qu'il devrait être dans la série, tu sais. Tu sais, Worf qui disait, pas Worf, mais Riker qui disait, it's something I've never seen, mais tu sais, mettre ça comme dans une scène sur l'Enterprise alors qu'il parlait de la station Farpoint. Donc, faut pas se fier au texte et à l'image en même temps, tu sais. Faut faire un petit peu de prêt d'un peu d'abstraction à ce niveau-là. Ah! On peut peut-être parler justement de Burnham et Sarek. Donc, soit qu'elle est demi-vulcaine, mais que ses gènes vulcains n'ont pas embarqué. Ça arrive, justement, dans la génétique. On ne sait pas.
Ça pourrait confirmer en disant que ta langue est trop humaine.
Ouais.
Comme phrase. Mais ouais.
C'est ça, tu sais, la tournure de la phrase, justement. Ou bien, elle a été élevée sur Vulcain, par des Vulcains.
Pour une raison XYZ.
Pour une raison.
Ouais, elle a été adoptée.
Pour une raison tragique. Ouais, ça, t'avais des Vulcains un petit peu sadiques là, qui voulaient faire.
Le torturer.
Torturer une enfant humaine en essayant de la rendre vulcaine.
Non, moi, je pense plus vraiment qu'on dirait que c'est. Moi, c'est vrai qu'on la voit enfant. Je sais pas, c'est vraiment.
On la voit enfant dans une espèce de chambre médicale. C'était peut-être un enfant malade qui s'est fait soigner sur Vulcain par justement des docteurs Vulcain. On ne le sait pas, c'est difficile à savoir. Mais c'est ça, elle a définitivement un lien avec Sarek. Qu'est-ce que vous pensez, le fait qu'on le voyait en hologramme aussi? Parce que les communications holographiques, on n'a pas vu ça dans Star Trek avant. Ben, en fait, on l'a vu une fois dans Deep Space Nine. Mais ils ont l'air d'avoir dit que c'était une mauvaise idée, puis ils ont lâché le projet. Je sais pas si. Honnêtement, j'hésite à savoir si c'était vraiment une communication directe ou quelque chose de pré-enregistré.
Ben, dans les films, on voit souvent des communications holo, c'est juste qu'ils sont en 2D, mais c'est quand même l'écran qui est holographique.
Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, honnêtement, moi, tant que c'est pas un holodeck, ou tant que c'est pas des hologrammes, entre parenthèses, solides, j'ai pas le problème parce que c'est pas difficile de croire qu'il y a de l'imagerie 3D holographique à cette époque-là.
De toute façon, notre technologie est presque rendue là, alors c'est crédible.
Mm-hmm. C'est ça.
Ils font tout le temps dans Marvel, pourquoi pas dans Star Trek?
Je sais pas.
Écoute, moi ça fait pas mal le tour. Il y a beaucoup de conversations autour de. On voit pendant comme un quart de seconde, juste je pense avant ou après l'espèce de casque USS Shenzhou, une espèce d'alien avec une espèce de capine qui
des mandibules.
Mandibules.
Non, ben, c'est sa capine. Il y a des mandibules.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait ce qu'on appelle les Klingons, ils les appellent les Herc. Ce serait des créatures dans ce cas. On sait pas, des aliens qui ont envahi Kronos il y a très très longtemps, après Kallès, après Kallès, bon, une couple de centaines d'années, qui auraient pillé et tué beaucoup sur Klingon et qui seraient repartis par la suite. Ça, on peut voir ça dans l'épisode de Deep Space Nine, The Sword of Kallès, je me rappelle bien, justement, où ils vont chercher la fameuse épée de Kallès. Donc, c'est pas difficile à croire que c'est peut-être des Klingons qui ont été enlevé ou mis en stase par les Herc et abandonné en quelque part, oublié quand ils sont retournés chez eux. C'est comme je dis, c'est une théorie prévalente qui fait quand même un peu de sens. Parce que j'ai hâte de voir, sérieusement, je suis très curieux parce que je suis certain du fait qu'il y a une chose qu'ils vont tu sais, ils vont peut-être pas expliquer les uniformes, les designs, puis les badges, mais il y a une chose qu'ils vont expliquer, j'en suis certain, c'est les Klingons. Parce que s'ils ont dit qu'ils étaient dans l'univers des séries, je vais l'écrire à 100% là-dessus. Premièrement parce que c'est CBS, puis deux, parce qu'ils l'ont répété ad nauseam. Puis c'est pas, honnêtement, c'est pas le design qui va dicter c'est quel univers. C'est vraiment juste une question de visuel. C'est, je veux dire, j'étais en train de parler, mais j'ai oublié. en tout cas, donc j'ai oublié, j'ai perdu mon train de penser. C'est le fun, ça. Sinon,
ils vont expliquer les Klingons, là. Mais
ouais, c'est ça. Ça a été, entre parenthèses, expliqué dans Enterprise. Puis, je pense que ce que Discovery va faire, c'est qu'ils vont expliquer comment que les Klingons ont regagné leur front. Donc, peut-être justement en mélangeant l'ADN avec des anciens Klingons avec les nouveaux. Comme je dis, je pense que c'est une des choses qui vont se...
Puis ça non, reste... il disait dans Enterprise qu'avec le temps, dans une couple de générations, ça c'est allait ça. Finir par revenir
mais,
comme avant.
Tu sais, 100 ans ou 80 ans, c'est pas quelques générations pour les Klingons, là. C'est même pas une. Donc, tu sais, je veux dire, ils sont guéris quand même. Parce qu'on parle des Klingons, une espérance de vie d'à peu près 200 ans, là. Fait qu'une génération de Klingons... Une génération de Klingons, c'est un peu plus long que ça. C'est un peu plus long qu'une génération pour les humains.
Ils ont beau avoir une espérance de vie de 200 ans. Pendant ces 200 ans-là, peut-être qu'ils peuvent avoir des enfants aussi souvent que nous.
Oui, oui. Non, je sais, mais comme je te dis, je pense qu'honnêtement, moi, mon avis, c'est qu'ils vont... Justement, c'est que l'ADN de la série, ou ce qui a initié la série, c'est vraiment la restauration des fronts de Klingons. Je m'étais... Ça me rappelle une petite blague que j'ai faite à Larry Nemechek sur Twitter en disant qu'en fait, pourquoi les Klingons ont retrouvé leur front aussi rapidement, c'est parce qu'en 2274, ils ont décidé de rajouter la reconstruction faciale au plan d'assurance maladie. Donc, honnêtement, ça fait quasiment du sens. T'sais, je veux dire, ou, t'sais,
moi, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir la culture Klingon, mais pas juste la culture guerrière. Je sais que la culture guerrière est importante, mais j'aimerais ça qu'on voit un peu plus les Klingons ordinaires.
Côté culturel.
Je veux voir de l'opéra Klingon, plus d'opéra Klingon.
Parce que on va lancer la pétition.
Il y avait on l'a vu quelques fois dans Deep Space Nine, tu avais un restaurateur Klingon qui venait avec son espèce d'accordéon puis chanter sur la promenade dans son restaurant quand il servait du gar. C'est quand même drôle, tu sais, je veux dire, t'as d'autres Klingons qui sont pas des guerriers, pis c'est bien correct, puis ben, je sens qu'il y en faut, tu sais. Parce que sinon, leur vaisseau va pas avancer longtemps si t'as pas d'ingénieur Klingon ou si t'as pas de Klingon pour faire la bouffe ou cultiver le gar. Donc, c'est cela. Donc, des avis avant qu'on parte.
J'ai vu que tu as bien aimé que l'émission qui va passer après Star Trek s'appelle Talking Trek.
Ah, ben oui, c'est vrai. Justement. L'émission va s'appeler Talking Trek.
Talking Trek.
Talking Trek.
Il fait exactement la même chose que Talking Dead après Walking Dead.
Non, c'est ça. Donc, c'est Talking Trek.
Traduit en français, bizarre. Je veux dire parlons Trek.
Ben, c'est
bizarre, hein?
C'est action de parler dans le temps présent, Trek. Parce que nous autres, c'est comme parlons, c'est plus comme un petit peu au passé, tu sais.
Non, ils ont volé notre idée, essaye pas.
Ça, c'est la question, ça. Si jamais ils traduisent Star Trek, puis ils traduisent aussi le Talking Trek, est-ce qu'ils vont s'appeler « Parlons Trek » et est-ce qu'on va se ramasser avec un copyright infringement?
Je penserais pas, honnêtement.
Faut que tu sécurises notre nom. Ça change rien, même le mot.
Non, c'est
eux autres qui sécurisent les droits, on est dans le mal.
Non, on changera de nom, c'est tout, mais je pense pas que ça soit là, parce que généralement, ces émissions-là sont pas vraiment traduites, parce que c'est vraiment juste comme... C'est du fluff,
c'est du live.
C'est ça, c'est du live. C'est peut-être un extra sur les DVD qui vont vendre, Mais ça va peut-être être plus sous-titré. Tu sais, les extras, c'est DVD, c'est jamais dubé, c'est sous-titré. T'sais. Fait que j'ai l'impression que ça va rester comme ça pour moi. Là.
Au pire, dans le sous-titre, ça va être écrit par l'autre.
Puis nous autres, on va rire.
Ça ne sert pas plus loin que ça.
Enfin, vous avez appelé Parler Trek.
Parler Trek,
oui. Wow, Parler, bon, mais ER.
Ouais, mais c'est fait au Canada, là. Ils vont traduire ça au Canada. Ils vont marquer Parlons Trek.
C'est correct, c'est en Ontario. Ils ne sont pas pris par la loi 101, eux autres.
Ouais, bah, en tout cas. Non, mais ça va être des Ontariens, mais je veux dire, tu sais, Hall est à côté, là. En tout cas, whatever.
C'est à Toronto.
En tout cas, tu t'es pas trompé dans le nom quand tu l'as choisi.
Non. Sinon, ben, en fait, une autre bonne nouvelle. Ceux qui disaient, CBS fait pas confiance à Star Trek, ils vont canceller ça super rapidement, puis mais non, c'est parce qu'ils ont monté la commande d'épisodes de 13 épisodes à 15 épisodes. Donc, on a 2 épisodes de plus pour la première saison de Star Trek Discovery.
Excusez-moi, là, ça a l'air juste un petit peu inquiétant parce que ils ont augmenté la commande, mais le monde, est-ce qu'ils sont prêts à faire 2 épisodes de plus? Je veux dire, tu sais, ah oui, vous savez comme moi que...
Ça devait être dans le contrat, là, ça, je veux dire, si ils ont accepté la commande supplémentaire, c'est parce que c'était dans le contrat des acteurs que...
Je m'inquiète pas pour les contrats des acteurs, je m'inquiète vraiment plus pour les scripteurs. Est-ce qu'ils avaient prévu...
Peut-être que les scripteurs ont demandé d'avoir plus d'épisodes, on ne sait pas.
J'espère. Parce que si c'est pas bien scripté, là, vous savez comme moi qu'est-ce que ça peut donner. Ça peut donner une cinquième saison de
Babylon 5.
Babylon 5, là, tu sais.
Ouais, mais non, je penserais pas. Si on dirait une saison de plus, oui, peut-être, mais 2 épisodes de plus. Je pense qu'ils vont peut-être juste prendre plus leur temps pour raconter.
Ils vont moins couper dans le texte.
Ouais, c'est ça. Fait que non, moi, ça m'inquiète pas pantoute.
Oui, ils vont faire comme au Japon, puis ils vont faire des animés, puis ils vont faire un swimsuit épisode.
Why not?
Un fameux.
Ah, après tout, gars, écoute, la capitale puis la First Aid Cabin sont des filles.
Ouais. Ah, un petit peu de fanservice.
Ouais. mais
écoute, gars, peut-être que le gars avec avec une tête spéciale là, qui est faite par ce grand acteur.
Doug Jones, oui.
Doug Jones, c'est ça. Peut-être que Doug Jones, il a l'air cool en boxeur. Dit que les filles vont baver dessus. Là.
Il y a peut-être des abdos d'enfer.
Je tiens à mentionner aussi ceux qui n'avaient pas remarqué, la première saison de Star Trek Voyager n'avait que 16 épisodes.
Eh, ben oui, c'est vrai.
Ben, l'épisode pilote compte pour 2, puis ensuite, t'as eu le reste. Donc, t'as eu 14 autres par la suite.
Ouais.
Donc,
c'était spécial pour eux autres, là, parce qu'ils sortaient une deuxième série de Star Trek pendant que Deep Space Nine continuait.
Deep Space Nine a été lancé pendant que Next Generation était lancé aussi. D'ailleurs, Deep Space Nine n'a eu que... La première saison n'a eu que 20 épisodes au lieu du fameux 26 ou 24. Là.
Ils voulaient pas mettre... je dirais pas qu'ils voulaient pas tous mettre leurs œufs dans le même panier, mais je veux dire, ils travaillaient sur deux fronts en même temps. Ouais. Fallait prendre une décision quelque part, là, tu sais.
Donc, c'est pas mal ce qui couvre nos impressions, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça couvre nos impressions.
Mm-hmm.
Mot de la fin avant qu'on parte. Non?
Merci beaucoup de m'avoir invité. Première des choses. Si jamais vous avez besoin encore d'une petite dose d'estrogène ou de féminité dans vos émissions, ça me fait plaisir de me joindre à vous quand c'est possible.
Ben ouais, ça fait plaisir de t'avoir, ma chère Pat.
Ben merci.
Et Pierre?
Moi, comme j'ai dit, je suis des plus intéressés. J'étais déjà vendu. Écoute, regarde, il me l'a pas juste vendu, là. Shut up and get my money, là. Ouais. Mais en tout cas, je dirais pas ça de même parce que tout le monde sait que moi, je payerai pas pour avoir un service de diffusion comme ça. Je vais m'organiser.
Ben, t'as... Honnêtement, prends-toi Crave TV pendant le temps que c'est diffusé. Ensuite, tu le cancelles. C'est comme canceller Netflix, ça se fait en deux clics. Là. C'est...
Mm-hmm. Ben, c'est sûr. Moi, je vais attendre que Jean soit bien avancé et qu'il ne reste pas grand-chose. Jean va rester 4 semaines.
Puis là, tu vas prendre le mot gratuit. Là.
C'est ça. Je vais prendre le mot gratuit. Je vais me taper tout ça d'une shot.
Mais c'est parce que, Pierre, tu ne pourras pas être sur le podcast si tu ne regardes pas tes épisodes.
Ouais, mais je parle pas toujours des épisodes, moi, des podcasts. Je fais mes propres.
Je peux te garantir, mon cher Pierre, que chaque
semaine... JP, j'irai le regarder chez vous, là, calé.
Au pire, Pierre, on se fera un petit marathon, là, puis on se mettra à jour.
Bon, c'est correct, on s'arrangera. Pierre, on te prend un GoFundMe pour te payer un abonnement à Crave TV. Ben, c'est correct, c'est pour le bien de ta fille, Pierre. C'est pour le...
De toute façon, yeah, écoute, si jamais ça tombe sur YouTube avant, ou une autre plateforme gratuite, là, vous êtes sûr que je vous le dis.
Ouais, mais Pierre, si on veut que Star Trek prospère...
Je sais que ça va être illégal. Je sais que ça va être illégal, mais je vais quand même le mentionner. Juste pour voir, je veux juste savoir combien de temps que ça va prendre avant que quelqu'un le hack.
Ah, je peux te garantir que ça va se faire premièrement. C'est sûr qu'elles sont piratées. N'importe quelle, toutes les séries sont piratées.
Pirater en streaming, c'est toujours un petit peu plus surveillé. C'est là que ça va être la surprise. Parce qu'à cette heure-là, ils sont violents. Là. C'est dur de trouver quelque chose en streaming. Downloader, jamais de problème. Streaming,
streaming, tu le regardes pratiquement dans les prochaines heures que ça a été posté parce que ça est vite enlevé, mais. Moi, généralement, quand je regarde du streaming, je me dépêche parce que je sais que ça reste pas longtemps.
Mais en tout cas, moi, personnellement, je peux me permettre l'abonnement. Je vais peut-être juste canceller mon Netflix pendant ce temps-là puis être sur Crave TV.
Oh mon Dieu, JP, pas de Netflix.
C'est correct.
Moi, je prends les deux assurés.
C'est ça, mais je veux dire, ils ont Star Trek sur Crave TV aussi. Donc, moi, je suis covered des deux sens. Là.
Oh.
Fourré, hein? c'est ça. Donc, merci Pierre d'être.
Toujours un plaisir. Et puis, c'est spécial. Une fois n'est pas coutume, je suis là 2 semaines de suite. Là. C'est plutôt rare.
Faisant pas une habitude, Pierre.
Je sais que t'aimerais trop ça. Oh. J'aimerais ça aussi, mais malheureusement, souvent, je suis très occupé. Alors,
donc,
ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres.
Ça fait plaisir.
Ça nous a fait plaisir aussi.
Et Marc. Petit mot de la fin de ton côté.
Moi, je demande tout à la communauté francophone de respirer, de relaxer, plutôt de critiquer quelque chose qu'on a hâte de voir. Arrêtez de chialer, c'est facile avec les réseaux sociaux. Dites-vous qu'on va se faire du fun quand on va écouter ça.
Ouais. On va se faire du fun à décortiquer et à suranalyser.
Oui.
Une fois qu'on a un épisode complet, là, on va être capable d'être moins smart un peu.
Se faire une idée avec 2 minutes, là.
Ouais, 2 minutes 21, c'est peu là, pour se faire une opinion. Là.
Ah, bon, ben merci, Marc. Sinon,
plaisir.
Moi, je vais vous laisser sur cette réalisation que j'ai faite, 3 types de critiques présentement sur Discovery. T'as ceux qui voulaient pas d'un prequel, t'as ceux qui aiment pas l'esthétique, et t'as ceux qui chialent à propos de la présence de femmes. C'est comme, what? Mais ça, honnêtement, c'est plus...
Il y en a qui ont chialé sur la présence de femmes.
Ben ouais, mais c'est...
Il y a encore du monde en 2017, ben, c'est qu'ils font ça.
On parle des commentaires sur
YouTube. Ça semblait que je n'ai pas entendu celle-là. Là,
on s'entend que c'est des commentaires sur YouTube, là, donc c'est surtout... J'ai pas vu ça du côté francophone, ni même des groupes Star Trek plus respectables. C'est vraiment d'un forum plus public que ce genre de trolls se font entendre. Donc, laissez-vous pas avoir par les trolls. Faites-vous de votre propre idée. Attendez. Pour nous, au Canada, on a la chance. Ça va être diffusé, je pense, sur CTV. Le premier épisode va être sur CTV. Les autres épisodes vont être sur le câble, donc vont être sur Space, on est chanceux parce qu'on est le seul endroit au monde où ce que ça va être, la série au complet va être diffusée à la télévision. Donc, si vous avez déjà le câble, tant mieux. Si vous n'avez pas le câble, prenez-vous pas un package à 80$ pour garder Space. Allez-vous pogner Crave TV à la place. Hein,
c'est... En passant, JP, j'ai un autre mot de la fin.
Oui, vas-y.
Alors, faut oublier que samedi, c'est la journée du vote pour The Circuit.
Oui, c'est le la journée de circuit. Donc, si vous n'avez pas fait de votre petite donation à The Circuit, très beau projet de Manu Interiami. Allez y jeter un œil, ça vaut la peine. C'est un bon gars. Il a parlé pendant une heure et c'était comme parler à un chummy, comme parler à un ami. Ce gars-là est passionné par ce qu'il fait. On sent vraiment une sincérité forte. Et il y a le backing professionnel pour ses ambitions. Il y a de l'expérience. L'argent ne va pas s'en aller pour payer des câbles de roue et des restaurants fancy.
Et déplacer son studio.
C'est deux fois. Sacrément. Donc, surtout que... On parle... Quelque chose d'original, une licence originale qu'il a lui-même créée. Donc, allez-y, ça vaut le coup.
Et il y a des bons amis, parce qu'il y a des bons acteurs qui vont être là.
Des très bons amis. Donc, sur ce, on va vous laisser en musique. J'ai choisi, on a parlé de la BD Mirror Broken. Donc, j'ai la chanson Mirror Mirror de Five Year Mission. On va laisser là-dessus. Vous écoutez Parler Trek. Pas Parler Trek. Oh oh!
Hey! Non!
Oh mon Dieu!
Ah,
je vais me faire actionner. C'est fait. Donc, parlons Trek sur les ondes de puissance maximale.
Puissance maximale!